Bonjour Bruno.
Bonjour Marin.
Alors, aujourd'hui, Richard Mitoire est en studio avec nous. On le retrouve bien sûr après le générique. Et il est en studio à l'occasion de l'exposition qui lui est consacrée « Parcours dessiné d'un graveur au local de l'autre côté ». Alors c'est une émission importante parce qu'on va voir différentes facettes du dessin et la gravure en fait partie. À tout de suite.
Écriture dessinée.
Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme je le disais, notre invité n'est pas au téléphone aujourd'hui, mais il est bien en studio. À l'occasion de l'exposition Parcours dessiné d'un graveur, Richard Mitoire va présenter un ensemble d'œuvres qui comprend aussi bien de la gravure, du dessin, des illustrations, des recherches pour le dessin animé, des décors, et donc différentes facettes de graveur. C'est assez essentiel d'avoir toujours présent à l'esprit cette possibilité de ces artistes nomades que le dessin permet, tant les registres du dessin sont larges et permettent d'exprimer tout le potentiel et la richesse du trait à travers ces différents supports. Donc nous passons cette heure avec Richard Mitoire qui va pouvoir nous entraîner dans toutes ces facettes du dessin. Bonjour Richard Mitoire.
Bonjour Bruno et bonjour à toutes et à tous.
Alors on a discuté en voiture pour savoir si on se tutoyait ou si on se vouvoyait. Eh bien on a choisi de se vouvoyer.
Voilà.
Et c'est très bien. Alors, j'ai évoqué seulement ce lien entre gravure et dessin. Alors, comment se fait l'apprentissage de la gravure? Comment ça s'est passé pour vous, Richard?
Ah, mais vous allez trop vite parce qu'en fait...
On prend notre temps, il n'y a pas de problème.
Non, je veux dire par là que le départ, c'est le dessin, tout simplement. C'est-à-dire que quand on est enfant ou bien adulte, enfin adolescent, on continue à dessiner, quoi. Et à partir du moment où vous découvrez la gravure, ben c'est tout à fait une autre chose, puisque vous allez dessiner sur une plaque de métal, au travers d'un vernis, vous allez faire votre dessin, ensuite c'est passé, une fois que le dessin est terminé, il faut plonger cette plaque dessiné dans de l'acide, et c'est l'acide elle-même qui va creuser le cuivre ou le zinc en question.
Alors, si pour c'est être tout à fait bien se représenter la scène,
ouais.
Il y a une plaque devant vous, alors ouais. C'est du cuivre, du zinc, on va dire du zinc.
Bah, au départ, c'est du zinc parce que c'est moins cher que le cuivre.
Voilà, mais ça peut se faire aussi sur cuivre.
Exactement, et c'est beaucoup mieux.
Elle est vernie.
Oui.
Et là, le dessin se fait sur le vernis.
C'est ça.
Et donc, c'est ce qu'on appelle la taille douce.
Taille douce, c'est à partir du moment où l'acide rentre dans le dessin que vous avez tracé auparavant.
Alors, il est tracé, il est gravé dans le vernis
non,
ou il est dessiné?
Il est simplement dessiné dans le vernis. Et le fait que vous utilisez une pointe, quelle qu'elle soit, hein, la pointe très fine, ou au contraire, si c'est un couteau de cuisine, voilà... aussi, ça marche. Une fois que vous avez effleuré et même gratté le vernis, à ce moment-là, vous allez découvrir la plaque de métal qui est en dessous, que ce soit le zinc ou le cuivre, et vous n'allez pas plus loin. Hein, puisque c'est, voilà, vous avez ôté du vernis. Et à partir du moment où vous voyez que votre dessin est terminé, à ce moment-là, vous prenez toutes les précautions pour que... toutes les précautions pour arriver à... Parce que vous allez utiliser de l'acide, c'est-à-dire vous allez préparer votre plaque, c'est-à-dire l'enduire au dos pour ne pas que l'acide mange tout. alors que l'acide a pour rôle de manger, enfin de creuser à l'endroit où vous avez découvert le métal, quoi.
Donc, si j'ai bien compris, une fois que l'acide a fait son ouvrage, il n'y a plus de vernis.
Non.
On a la plaque. Non. Et là où ça a été tracé, c'est creusé.
C'est creusé, voilà, c'est ça. Alors, une fois que là, c'est creusé et que vous êtes content, parce que vous allez vérifier la marche à suivre, c'est-à-dire l'acide, il faut la balayer dans un bac, puisqu'elle est posée dans un bac, avec une plume ou avec quelque chose de léger, de manière à enlever les bulles qui se produisent à l'endroit où vous avez gravé, en tenant compte toujours du vernis. Donc, et quand vous décidez que la profondeur du trait que vous voulez est suffisante, là vous arrêtez tout. Enfin, je veux dire sur l'ensemble de la plaque, sur l'ensemble du dessin. D'accord ? Et une fois que vous avez fait ça, vous enlevez le vernis.
Alors, c'est pas l'acide qui enlève le vernis.
Justement.
De ma part. Le vernis reste tout le temps nécessaire pour que vraiment l'acide se concentre sur la plaque.
Absolument. Ouais.
Sur ce qui a été tracé
avec la pointe. C'est exactement ça. Donc, au lieu de dessiner avec un crayon, en fait, vous dessinez avec une pointe, quelle qu'elle soit.
Alors. Non, c'est important parce que je pense qu'on perd pas suffisamment de gravure à la radio. Alors que. C'est quand même, lorsqu'on voit les œuvres, les estampes qui existent depuis très longtemps, et puis encore aujourd'hui, il y a quand même toute une partie de gravure contemporaine importante, on ne se représente pas suffisamment ce que ça implique. Mmh. Alors, il y a une question qui quel niveau de précision on peut avoir ? On le verra dans l'exposition où vous avez des gravures qui sont présentées, des gravures de paysages où on a vraiment la précision de l'arbre avec toutes les branches, le feuillage, les canopées, les espaces du paysage. Donc il y a un niveau de précision que permet la pointe. Oui. Sur ce vernis qui permet de protéger le reste et d'avoir juste ce trait. Comment se passe, quel geste il y a au moment du tracé à la pointe? Est-ce que c'est vraiment une sorte de précision très... Ou est-ce qu'il y a de l'énergie possible?
Il y a de l'énergie possible. Non, le fait que ce soit... mon dessin soit fait sur une plaque, il n'est pas différent de celui que je dessine sur un papier. C'est-à-dire que je prends un crayon de papier, je dessine, et ce dessin-là, si j'ai envie de le reproduire, à ce moment-là, je le dessine dans le vernis de manière à faire dupliquer ce dessin.
Oui, mais par exemple, vous utilisez le fusain, vous utilisez d'autres matériaux qui ont des traits plus denses avec des scories. Mm-hmm. On ne peut pas reproduire ça facilement en gravure.
Si, puisque c'est l'acide qui va faire le travail, en fait. L'acide, elle va... Et puis, en fait, vous allez être tout le temps concentré sur ce bac qui est plein d'acide, votre plaque qui est dedans, et vous allez voir que la morsure se fait avec les bulles dont je parlais. Si vous voulez, dès qu'il y a des bulles, ça y est, ça commence à mordre le métal, quel qu'il soit. Voilà. Alors, est-ce que c'est assez clair?
Si, je pense qu'on progresse, c'est bien. Richard Mitoir, il y a une question de format. Parce que on a aussi bien des miniatures et ça on en rencontre assez facilement. Et puis il peut y avoir des œuvres beaucoup plus grandes. Et notamment vous avez fait une sorte d'exploit avec une gravure en plusieurs plaques qui représente 15 mètres carrés, 5 fois 3.
C'est vrai.
Alors, comment on passe de ce travail de précision, de fond, avec la gestion de l'acide sur la plaque, à quelque chose de plus démesuré, ou qui va être assez difficile à tirer d'ailleurs.
Qui est intirable en fait. Je n'ai pas trouvé de presse suffisamment large et longue pour les tirer. Donc le résultat, c'est une œuvre gravée, mais bon, on ne verra pas les épreuves. C'est-à-dire les épreuves sur papier, c'est ça que je veux dire.
Elles n'ont jamais existé.
Non.
Donc l'exposition présente deux plaques.
Oui.
Mais on n'a pas eu de tirage de...
Ah ben il n'y en aura jamais.
Quel dommage.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui a fait que Richard Mitoire, vous vous êtes lancé dans cette écriture dessinée, gravée
Gravée. C'est-à-dire la surface.
Le fait de. Bah oui.
La surface.
Et le thème aussi.
Ah, le thème, oh là là, ça c'est compliqué. Hein. Je sais pas.
On essaye.
Oui, on essaye. Bah, déjà, sur ces plaques de 2 mètres de long sur 1 mètre de large, si vous voulez, une fois que le vernis a été posé, bah, moi je me couchais dessus parce que je n'avais pas d'autre solution. Hein, parce que voilà, dessiner comme ça en l'air, c'est pas évident. Et bah, je travaillais dans l'ensemble, et plus je travaillais, plus je reculais, quoi. Et la difficulté, une fois que le dessin est terminé, parce que ça, vous le voyez bien, j'ai utilisé un vernis pour l'occasion, j'ai utilisé un vernis piano, ça s'appelle, le même que l'on utilise pour badigeonner les pianos.
Ah oui.
À queue, hein, ou à tout ce que vous voulez.
Les pianos de Johnny.
Voilà, c'est ça. Et... c'est ça. Et oui, bon, ça y est, j'ai perdu le fil.
Alors, le badigeon avec le
oui,
vernis.
Oui, voilà.
Et, à queue ?
Oui, à queue. Donc, une fois que ça, c'est terminé, bon, donc ma plaque est complètement noire, hein, sur du zinc, sur une plaque de zinc. Et au fur et à mesure, moi, je dessine sur cette surface noire, ce vernis noir, je vais dessiner avec, mais rapidement, avec un crayon gras, enfin, vous voyez, les pastels, genre pastel, quoi. Et j'ai ma forme générale, et puis j'habite progressivement, si vous voulez, à la composition. Enfin, ce qu'on appelle un dessin qui est composé, en fait. Hein. Et une fois que je suis satisfait de l'arrangement, si tu veux, des formes, comme elles vont être dans la surface, à ce moment-là, c'est beaucoup plus lent comme processus, parce qu'il faut graver après. Vous voyez, tu vois, vous voyez,
oui, voilà. On y arrive.
Oui. et bien là, vu la surface, parce que normalement on travaille sur une surface, allez, disons 21-29-7, hein, pour faire de la gravure tranquille, pépère, etc. Mais là, c'était pas pépère, enfin bref, et c'était quand même 2 mètres carrés, quoi. Enfin oui, c'est ça, 2 mètres carrés sur lesquels j'étais couché. Donc... au lieu d'utiliser une toute petite pointe fine, très charmante, comme ça, ben non, moi c'était un couteau. Un couteau de cuisine, le bête couteau de cuisine, qui me permettait justement, puisque si vous l'utilisez comme ça, ça fait une pointe, hein, bien nette. Vous l'utilisez un petit peu penché, prouf, tout d'un coup ça fait une largeur de dessin qui est plus large, enfin oui, plus large en fait. Et ben voilà, il y avait tas de possibilités. Pour attaquer ce monument de 2 mètres carrés, quoi.
Et les plaques ont été exposées pour qu'on puisse se représenter et voir ce dessin
ouais,
en entier.
Oui, ouais, je l'ai fait à quelques occasions. Bah, c'était avec des occasions de filles et de garçons qui étaient ici aussi de l'école des arts appliqués de Metz. Une fille avait une propriété du côté de Troyes qui s'appelait je sais plus comment, bref. Et elle avait une grande grange. Et là, j'ai pu pour la première fois monter avec l'armature que mon père m'a construite. Il a été sympa là pour le coup. Et donc il m'a fait cette structure qui me permettait d'associer toutes les plaques les unes à côté des autres, tchac, 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 pour faire les 15 mètres carrés. Et ça, on a pu le monter avec une corde pour le mettre verticalement.
On va écouter notre premier choix musical, alors on a choisi de la musique du monde. Ah. C'est Kwike Wakoze. Et à tout de suite. Richard Mitoir, là, vous avez évoqué toute la partie technique de la gravure, de ce que ça représente, de la démesure qu'elle peut avoir et avec laquelle on est relativement peu confronté. Est-ce qu'on peut vivre de la gravure comme ça? Est-ce que vous avez pu le faire ou il y a eu une orientation vers d'autres dimensions du dessin?
Ben oui, parce qu'en fait, personnellement, j'ai pas vécu de la gravure. Hein. C'était un peu pour me faire plaisir hein, sur des grandes plaques, etc. Mais bon, en même temps, entre temps, plutôt, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré dans l'éducation nationale parce que bon, comme me disait ma chère mère, oui. Eh bien, il faut gagner ta vie, puis mon père aussi. Enfin, sinon, hein, bon, voilà. Donc, voilà, avec, bon, il faut dire qu'entre-temps, oui, j'ai passé quand même, mon certificat d'aptitude à une formation artistique supérieure qui s'appelle le CAFAS. Et donc, c'est ce qui m'a permis, en fait, c'était un peu la porte ouverte, justement, à l'éducation nationale. Parce qu'à ce moment-là, l'éducation nationale... Je ne veux pas faire de blague, mais l'éducation nationale cherchait des... Justement, on voulait, disons, ouvrir un petit peu plus l'apprentissage à une formation. Enfin, pas, je dirais pas une formation, mais disons que le dessin ait plus de présence à l'école. Et donc, c'était une opportunité. Bon, allez, on y va. Et j'ai quand même passé 5 ans, je crois, depuis... Ah oui, ça, c'était génial. Depuis... je suis rentré là, en 1968. La rentrée de 1968, alors qu'il y a eu mai 68 avant. Ça, c'était génial. Bon. Voilà. Donc, il y avait des tas de choses qui ont été bouleversées déjà dès le départ dans l'éducation parce qu'on ne savait plus. Les codes foutaient le camp. Enfin, voilà, quoi. Donc, il fallait rattraper progressivement tout ça, quoi. Donc, il fallait se positionner quelqu'un de plus sage, disons, hein, pour enseigner. Mais c'était. Malgré le fait que j'avais des classes de 30 élèves, donc ça faisait 600 élèves pendant une semaine.
20 heures de cours semaine, ça ouais. fait 600 élèves.
Voilà, 600 élèves, c'est énorme, quoi. Mais bon.
Pour les appeler par leur prénom, ça devient un peu compliqué.
C'était compliqué, ouais. Ouais, tout à fait. Mais bon, j'en suis sorti quand même, voilà. Et puis à un moment donné, j'ai dit non, c'est pas possible de continuer. C'était de l'abattage, quoi. C'était pas de l'éducation. C'était de l'abattage quelque part, quoi. 20 heures par semaine. Voilà. Donc, à un moment donné, j'ai pas tenu le coup, quoi. Parce qu'il y avait trop de monde. T'imagines 30 personnes.
Dit Richard en regardant Marin de l'autre côté de la vitre.
Oui. C'est incroyable, quoi. Et bon, à un moment donné, vous êtes complètement tordu, usé par ça, quoi. Déjà. À l'âge d'une trentaine d'années, à peine.
Alors. On imagine facilement, c'est des situations qui ont été longuement décrites. Alors, vers quel destin vous êtes-vous tourné à ce moment-là ?
Destin, il faut dire.
Ah, c'est pas mal, c'est joli ça.
Oui.
Le destin du destin.
Eh bien justement, si j'ai quitté l'éducation, enfin voilà, j'ai pas quitté ma vocation, j'aime pas trop le terme, mais bon. Les dessins pour autant, au contraire, ben j'ai trouvé d'autres moyens d'aller dessiner, donc y compris par exemple, une chose que j'aimais beaucoup, c'est de réaliser des affiches de spectacle, par exemple. Et en fait, j'ai trouvé une structure qui s'appelait à l'époque l'ensemble dramatique de Metz. Et donc là, ils faisaient du théâtre, mais ils faisaient plein d'autres choses. Et les soirs, dans le caveau de ce cloître, justement, c'était intéressant. On avait aménagé justement une scène sur laquelle tous les artistes pouvaient se produire avec les musiciens, etc. Et puis, dans le fond, il y avait le public, quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai connu une quantité d'artistes qui, à l'époque, c'était des moins qu'on connaissait très peu, quoi. Par exemple, je ne sais plus, mais enfin, vous pouvez pratiquement ceux qui vivent actuellement, eh bien, sont passés par là, quoi. Et je veux dire, ils étaient fauchés, les mecs, tous, comme nous, que ce soit dans cette association, la fin de l'association. Voilà. Et à partir de ce moment-là, donc, j'ai fait une quantité assez importante d'affiches, quoi. Mais bon, c'était gratos. C'est-à-dire que...
C'est facile pour en vivre.
Oui, c'est pas très facile. Mais en fait, ce qui était bien, c'était que en échange de ça, j'ai pu habiter pas très loin du lieu où je travaillais. Et la personne qui dirigeait ce lieu m'a laissé un appartement, voilà, qui était vétuste, mais bon, que j'ai arrangé au fur et à mesure pour m'y sentir bien, quoi. Et pour bosser en même temps, il y avait une petite galerie en dessous. Donc voilà, il y avait toutes ces choses-là qui se présentaient, et bon, voilà.
Donc c'est une étape importante.
Oui, bien sûr.
Donc il y avait à la fois de l'affiche, est-ce qu'il y avait du croquis sur le motif, est-ce qu'il y avait...
Non, là c'était...
C'était alors là, toute la partie communication visuelle.
C'est ça, là j'étais complètement libre dans une certaine... Mais non, pas libre dans la mesure où il fallait quand même mentionner les artistes qui avaient passé, chanteurs, jazzmen, théâtre, enfin tout ça, quoi, tous ces gens-là, voilà. Et ça faisait l'objet d'affiches qui étaient grandes comme ça, quoi, tu vois, vous voyez. Et
alors, si vous êtes à la radio de l'autre côté du poste, en fait, vous voyez, c'est comme ça, c'est genre à deux, hein, double à trois, donc 60-80.
Oui, d'accord, ok.
Voilà, donc oui. Vas-y, je continue. C'était pour que les auditeurs se rendent compte de ce que veut dire ça.
Ah mais oui, c'est vrai, on est à la radio, excusez-moi, c'est comme à France Culture, c'est pareil.
Mais c'est bien
pareil.
Sûr.
Oui, oui. J'en étais où, là, en fait?
On en était sur la communication visuelle et sur ce que tu devais faire, ce que vous deviez faire pour le théâtre.
C'était super important parce qu'en fait, dans toute la ville de Metz, en fait, une fois on avait établi cette affiche avec les noms des artistes qui allaient passer dans le mois, parce que c'était une affiche par mois, donc je mettais tous les artistes qui allaient passer, Jasmine, etc. Et une fois qu'on avait terminé, que le dessin était terminé, à ce moment-là, le soir, on montait à l'étage pour aller faire des tirages. C'est-à-dire avec de la sérigraphie, hein, avec les potes, qui étaient musiciens aussi d'ailleurs. Et donc, on montait à l'étage et puis là, on commençait avec l'encre donc, de sérigraphie qui était, dans un cadre comme ça, de soir. Hein. Le dessin avait été réimprimé là-dedans et ensuite, on pouvait passer de l'encre partout, et vous avez l'impression de la fiche avec les noms, etc. Quoi. Et avec, s'il y a des couleurs, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut plusieurs cadres, enfin voilà. Et une fois qu'on avait fait ce nombre d'affiches suffisant, le soir très tard, on allait dans les rues de Metz pour les afficher. Et on n'avait pas le droit de le faire. C'était illégal, en fait. Mais bon, les flics, pardon. Enfin,
oui, attends, ça fait un moment. La police, il y a prescription, hein, voilà. Tu peux y aller.
Oui, c'est ça. La police municipale, je crois que c'était même une police qui était un peu, enfin, bizarre. Bref. Je n'irai pas plus loin.
Alors, il faut imaginer, chers auditeurs, que dans les rues de Metz, à ce moment-là, vous pouviez récupérer, décoller juste après le placement sur les murs, une sérigraphie. Mais maintenant, c'est impossible, ça.
Non.
Il y a quelques structures qui font encore des sérigraphies pour leur communication, mais c'est de plus en plus rare.
Oui, c'est ça.
Il y en a des très belles.
Mais oui, bien sûr.
Alors, à quel moment le dessin, par exemple pour le dessin animé, arrive?
Ah, il arrive
c'est vraiment c'est bien après ça.
C'est après, oui. Ouais, ouais. Oui, quand j'ai quitté, bon, là aussi, il y a eu des drames dans ce machin, dans cette organisation-là. J'ai quitté le lieu et puis je me suis orienté vers autre chose, quoi. Parce que...
Et le dessin animé, alors...
C'était tout simplement parce qu'en même temps, oui, j'habitais en Lorraine, donc à Metz. Enfin, dans les environs de Metz. Et puis, un copain qui habitait Metz aussi, on s'était rencontré au caveau des Trinitaires. Et il me dit, mais tu sais que là-bas dans le sud, où il est à Saint-Laurent-le-Minier, par exemple, hein, qui est pas loin d'ici, tu sais qu'il y a je dirais pas une école de dessin animé, mais il y a Jean-François Lagioni qui a fait une structure de dessin dans laquelle on pouvait travailler le dessin animé. Et donc, je suis rentré là-dedans, bien entendu. Et puis, ça a marché, quoi. Je suis resté 30 ans, quand même.
Alors, on va parler de ces 30 ans après la deuxième pause musicale. Electro Bamako. Êtes sur les ondes de Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes avec Richard Mitoire à l'occasion de son exposition Parcours dessiné d'un graveur. Donc nous en étions restés avant cette coupure inopinée de la musique. Nous en étions restés à l'arrivée à Saint-Laurent-le-Minier pour rentrer finalement à la fabrique. Alors, vous êtes resté 30 ans à la fabrique, Richard Mitoire. Comment s'est construit votre rapport au dessin animé, votre travail dans le dessin animé? Comment ça s'est passé? Parce que vous avez été décorateur, vous avez fait des recherches de personnages, vous avez fait... Alors, qu'est-ce que ça veut dire travailler dans le dessin animé aujourd'hui et à cette époque?
Bah, à l'époque, c'était, vous aviez des sujets, enfin des films qui allaient être, enfin qui sont programmés pour être présents à la télévision ou au cinéma, oui. Donc vous êtes, il y a un scénario, quoi. À partir de ce scénario-là, bon, quand vous êtes, voilà, vous commencez à chercher soit les personnages une fois que vous avez lu votre scénario, ou soit selon la demande les décors, quoi. Donc il faut faire de la, enfin pour moi personnellement j'aimais bien faire de la recherche, donc je me plongeais là-dedans, et bon, proche bien entendu du sujet. Et puis, bon, évidemment, aussi, quand il s'agissait de faire des séries de, je sais plus, 25 ou 50 minutes, pour la télévision, c'était une demande, donc pour la télévision, à ce moment-là, j'avais affaire à des auteurs qui eux-mêmes étaient illustrateurs. Michel Oslo, par exemple, enfin, Jean-François Laguioni également, et bien d'autres encore. Et c'était avec eux que je travaillais, c'est-à-dire qu'ils avaient un univers spécial qui n'était pas le mien, mais en fait, il se trouvait que ouais, je crois que j'aime bien le dessin, quoi. Hein, je pourrais regarder du Rembrandt et puis copier du Rembrandt, en gros. C'est un peu ça. Bon, ça, je fais une parenthèse. Mais voilà. Donc, chaque auteur auteur et illustrateur avait un style de dessin particulier que je pouvais effectivement imiter pour, bon, ne serait-ce que surtout pour les décors, pour que ce soit cohérent avec la demande au départ. Je sais pas, est-ce que c'est clair?
Alors, on va préciser de toute façon. Alors, donc, imaginons. Votre arrivée dans le dessin animé, on prend une série. Alors il y a eu des séries par exemple sur les contes, il y a un dessinateur qui va réaliser ou participer à la réalisation d'un conte. 6 contes différents, 6 dessinateurs différents, et à chaque fois que votre travail doit s'adapter au dessin du dessinateur qui a été choisi pour le conte en question.
Oui.
Qu'est-ce que ça représente pour un dessinateur d'avoir cette face, cette amplitude pour pouvoir s'adapter? Est-ce que vous vous y retrouvez dans votre dessin personnel?
Ah ouais, c'est un défi à chaque fois, en fait. C'est chaque fois un défi parce que, vous avez une façon de dessiner propre. Hein, et les auteurs qui sont, enfin, les auteurs d'autres. Enfin, dessinateurs, si eux, ils ont une autre façon de voir les choses. Et bon, moi, ça ne m'a pas posé de problème particulier, en définitive, parce que je pouvais, oui, je peux dire que je pouvais imiter le dessin des autres. Parce qu'en fait, les auteurs en question, ils vous balancent, enfin bon, avec les scénarios, machin et trucs, ils vous balancent une quantité de dessins qu'ils font eux-mêmes. Bon, puis eux, ils s'en vont sur Paris ou ailleurs, quoi. Hein? Et c'est au studio même, avec les potes, enfin les amis, enfin c'est pas les amis, ceux qui travaillent avec nous, ensemble, et ben vous vous débrouillez avec ça, quoi. Que ce soit donc le dessinateur de décor, que ce soit évidemment les animateurs aussi, parce que les animateurs, ils vont être obligés d'animer un personnage, deux ou trois ou davantage, quoi. Et il faut que ce soit dans le style de ce que dessiner l'auteur, Donc à chaque fois, il fallait se transformer quelque part. Enfin, je sais pas, se transformer.
Est-ce que le alors on peut citer quelques films d'animation sur lesquels vous avez participé, le Château des Singes,
l'île
de Blackmore, Louise en hiver.
Louise en hiver, c'était plus c'était à la fin, ça. Donc je suis pas.
Oui,
trop...
c'était plus à la fabrique.
Oui.
Alors, par exemple, sur le Château des Singes, sur les décors du Château des Singes,
j'ai oublié de vous les montrer, mais bon, à l'occasion, on en reparlera et on fera un sujet.
Pour une prochaine exposition, ça va nous mener loin, tout ça.
Par exemple, si vous parlez du Château des Singes, mais j'ai des kilomètres de jungle. Avec une végétation, si vous voulez, très, très délirante, quoi. Mais qui est proche de la réalité. C'est inspiré de la réalité. Et moi, avec ça, avec cette documentation, moi, je délire, quoi. Enfin, et je compose mon image en fonction de ce que, quand même, le réalisateur veut. C'est-à-dire, si par exemple il y a un chemin sinueux qui va jusqu'à la montagne, eh bien, d'abord il va sortir de la forêt, et on va voir un petit chemin de forêt avec plein d'arbres luxuriants. Au fur et à mesure qu'il grimpe, il y a moins en moins, quoi. Et puis on arrive au sommet, et puis pour contempler, hein, une fois qu'il est là-haut, le personnage, il va contempler la mer, voir la vastitude de la mer, quoi. C'est génial.
Et donc. Lorsque les décors, sur les recherches de décors, est-ce qu'il y a un dessinateur qui va finaliser les décors ou...
C'est ça.
Donc, en fait, vous vous êtes vraiment occupé de la partie recherche.
C'est ça. La recherche et le graphisme, quand même, au départ. Et puis, à la suite de ça, une fois qu'on a terminé... Enfin, une image, par exemple, une fois qu'elle est dessinée, à ce moment-là, elle est distribué aux décorateurs qui, eux, vont charger de reprendre tout mon dessin trait pour trait, si on peut dire, au mieux qu'ils peuvent. Et puis ensuite, ça va être donné à des décorateurs couleurs. C'est-à-dire, donc, vous avez votre dessin en noir et blanc, par exemple, là, on imagine, bon, comme une affiche, quoi. Et une fois que le dessin en noir et blanc est terminé, pof, ça passe sur du celluloïde pour le tracé, et pour la partie inférieure, c'est le décor lui-même qui est peint minutieusement, un décor de couleur comme là, comme une affiche pratiquement.
Alors, j'ai évoqué le geste dessiné lorsqu'il y a eu la gravure. Donc là, on évoque un geste qui s'adapte au dessin d'autres,
oui,
mais qui va aussi être une référence pour d'autres décorateurs qui vont finaliser le dessin. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette foule qu'il y a dans les studios de dessin animé ? Parce que la gravure, c'est plutôt solitaire.
Ah bah oui.
Et le dessin animé, c'est tout sauf solitaire.
Non, là, on travaille vraiment, je dirais pas en communauté, mais ensemble, quoi. Je veux dire, quelque part, chacun sur sa table, mais on essaie de rassembler le plus d'éléments pour faire l'image finale, quoi. Qu'elle soit coloriée, qu'elle soit dessinée, dessinée d'abord, coloriée, etc.
Quel est votre suivi, Richard Mitoire, tout au long de cette progression des décors jusqu'à la réalisation finale? Est-ce que vous avez votre mot à dire sur ce qui va être vu à l'image?
Ça, c'est déjà plus complexe parce que les messieurs, les réalisateurs, je vais pas les citer les noms, mais pas de nous, mais ils ont une optique quand même de leur la façon dont ils vont vouloir que ce soit comme ça, quoi. Ben, donc, notre rôle à nous, aussi bien les décorateurs que eux, c'est d'être le plus proche de ça. Bon, puis, après, Inch'Allah, quoi.
Quelle a été une des plus grandes satisfactions que vous avez eues, Richard Mitoire, dans le dessin animé?
c'était, il y a des périodes délirantes du genre, ben oui, quand j'ai travaillé sur Château des Singes, je sais pas si vous vous rappelez, mais à un moment donné, le petit singe, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, bref, il grimpe tout en haut de la canopée, et puis je sais plus ce qui se passe, enfin bon. Et à un moment donné, il chute de cette canopée. Et tu vois, la canopée, c'est quand même très haut, hein, les arbres de la canopée. Et moi, j'ai fait, je crois, qu'un décor qui faisait 5 mètres, plus de 5 mètres de long, quoi. Pour voir, alors, l'animation, pour voir, parce que, en fait, pour l'animation, vous avez un personnage là, qui est là, et dans cet immense dessin, si vous voulez, eh bien, il est relativement animé, quoi. Il bouge quand même, hein, quand il tombe. Et voilà. Et ça faisait 5 mètres de long.
Donc là, l'idée, c'est vraiment que en arrière-plan, il y ait le dessin, le décor de la jungle.
Absolument.
Et par-dessus, c'est la force du dessin animé, on anime le personnage qui tombe.
C'est ça. Alors, voilà, ce personnage, il est sur un celluloïde. Alors, oui, voilà, il faut en arriver, bien sûr, au mouvement. C'est-à-dire que pour faire un mouvement, par exemple, d'une seconde, il faut 12, ou théoriquement, bon, pour que l'image soit fluide, c'est 24 secondes.
24 mais images par seconde.
Oui, 24, et oui, c'est ça. Et par contre, en dessin animé, on peut se permettre de n'en faire que 12, ce qui est déjà pas mal.
Les Japonais n'hésitaient pas à en faire que 6.
Ah, ben d'accord.
Des fois 5.
D'accord, voilà. Bon, oui, c'est vrai. Bon, là, on ne parle pas de ça, je veux dire. Ouais, ok. Voilà. Alors, où on était. Oui, bah, oui, c'est.
Donc, il faut créer tous les intervalles et toutes les images qu'il y a entre un point A et un point B.
C'est ça. Ça, c'est le travail des animateurs, en fait. Ouais. Donc, il y a des tonnes de papiers comme ça, avec chaque fois un dessin sur l'autre. Alors à l'époque, effectivement, c'était fait sur papier, hein, l'anime. Maintenant, ça se fait sur ordinateur. Donc, une économie de papier, quoi. Et quand j'ai quitté cette fabrique de dessins animés, en fait, à cause d'une catastrophe, c'était la...
2014, hein, les inondations, ouais, à Saint-Laurent-le-Mille.
Voilà. Eh bien, un matin, j'arrive à mon boulot, comme d'hab, je traverse le pont de l'école. Hein, parce que l'autre, il était déjà brisé, je crois. Et des milliers et des milliers de dessins dans l'eau. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Ouais.
Marin acquiesce, parce qu'il est de Saint-Laurent. Et donc, ça doit être terrible. C'est une image terrible.
Ah ben, c'est une image terrible. Tout d'un coup, c'est la fin de quelque chose, quoi. Je sais pas comment on peut réagir. On a essayé après, par la suite, avec différents directeurs, enfin, je sais pas quoi, pour remonter un peu la pente. Mais là, je crois qu'il y avait quelque chose qui a été touché, quoi. Enfin, même pour moi aussi. Et puis, émotionnellement, bien entendu, je suis pas le seul, hein, franchement. Mmh. Voilà.
On va écouter de la musique et puis on reparle de l'expo tout à l'heure.
Ah oui.
Le dernier morceau, c'est Mandocini. C'est une artiste d'Afrique du Sud ou du Zimbabwe et qui a utilisé notamment la guimbarde, qui est un instrument du sud de l'Afrique.
Ah ouais. D'accord.
Okay. Yo Guzman, olilo yo Guzman, ulile lugu wamba, ulile lugu wamba Guzman, ulile lugu wamba mchaba, ulile lugu wamba Guzman, ulile lugu wamba Guzman, tando lupele. Oh,
Nous sommes avec Richard Mitoire à l'occasion de son exposition « Parcours dessiné d'un graveur ». Alors, pour cette exposition, qu'est-ce que vous nous montrez, Richard Mitoire ?
Bon, ben, j'allais dire, globalement, c'est du dessin.
C'est net.
C'est net, hein. Mais bon, sous différentes formes. Un dessin sur papier, vous avez les dessins en gravure, hein, dont j'avais parlé tout à l'heure.
Le dessin animé, il y a les recherches.
Oui, les recherches, effectivement, des personnages des films, et y compris les décors qui ont été faits, les recherches de ces décors qui ont été faits à l'époque à la fabrique, oui. Ouais.
Alors là, il y en a un très grand nombre, oui. Donc on va pouvoir en présenter un très grand nombre. Parce que cette idée qui est à transmettre, c'est que finalement, un dessinateur de dessin animé, un décorateur de dessin animé, oui. Vous avez des images plein la tête.
Oui, mais elles ne viennent pas, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'elles ne viennent pas uniquement que de moi. Hein. J'ai besoin quand même d'une documentation. Dans tous les sujets sur lesquels je travaille, hein, je l'ai déjà dit, j'aime bien avoir des documentations, que ce soit des photos. Et d'ailleurs, par exemple, quand j'ai travaillé avec, par exemple, pour l'Étoile du Sud, qui se passe en Afrique du Sud, bon, le gars, le réalisateur qui vient, il dit bon, écoute, qu'est-ce que je fais moi avec ça? Je ne suis jamais allé là en Amérique du Sud, en Afrique non plus d'ailleurs. Je dis quand même, j'ai besoin d'une certaine documentation, parce qu'en fait, ce sujet en particulier, si vous voulez, c'est dans cette partie de l'Afrique du Sud, c'était des chercheurs d'or qui ont creusé, je crois, creusé la terre comme des fous, quoi, pour trouver du pognon. Enfin, plutôt de l'or, quoi. Hein. Et c'était horrible parce qu'en fait, vous aviez les pauvres gens qui eux bossent comme des fous et puis qui crèvent là-bas dans le fond. Voilà quoi. Tout ça pour le profit. Enfin, on a inventé rien de mieux et ça existe encore aujourd'hui. Donc voilà. Là, je m'écarte un peu du sujet. Mais bon, c'était super passionnant parce que...
On était sur la documentation.
Sur la documentation, oui, justement, c'est que tout d'un coup, ça ouvre... évidemment, la radio, encore une fois, on ne peut pas les montrer.
Oui, mais il faut faire avec.
Il y a une multitude de choses à faire sur un décor, justement pour être proche de l'esprit de ce que voulait le scénariste d'une part, celui qui a écrit cette histoire, et puis le réalisateur, quoi. Donc, il y a un moment donné, on est pris dans ce jeu-là, quoi, hein, une fois qu'on connaît tout ça, le scénario et tout. On avance, pour moi, j'ai avancé là-dedans pour être au plus près du sujet, quoi. Et ça me passionnait. Quelque part. Parce que tout d'un coup, c'est un monde qu'on découvre en plus.
Donc, alors, sur cette exposition, Richard Mitoire, vous allez présenter un certain nombre de gravures et certaines sont à vendre, puisqu'il y a quelques tirages. Ouais. Pourquoi n'en parlerions-nous pas ?
J'ai pas la liste de prix.
Non, mais c'est-à-dire.
Non, je blague.
L'idée, c'est aussi de pouvoir partager ça, parce que...
Oui, elle est drôle, je trouve, cette civilisation, c'est-à-dire, il faut...
Qu'est-ce qui vous gêne dans vos gravures ?
C'est-à-dire que j'allais dire que vous vendez votre âme quelque part, c'est un peu prétentieux ce que je dis là, mais... Vous faites un super dessin, vous l'avez là, quoi. Et puis après ça, on vous demande, écoute mec, il faut que tu le vendes, quoi, ton truc. Ça, Mais, pour moi, ça n'a pas de prix, je veux dire. C'est...
Mais justement, Richard Mitoir, vous ne vendez pas vos dessins, vous ne vendez pas vos originaux, vous vendez des épreuves ou des tirages
que
permet la gravure, par exemple.
La duplication, importante là, dans le cadre de la gravure, enfin de l'impression, en fait.
Alors, il y a, pour préciser un peu plus le contenu de cette exposition, il y a des tirages d'art qui seront à vendre, d'originaux que vous allez conserver.
Oui.
Et donc, c'est des tirages qui sont faits à Montpellier par la société Tomoe, qui est spécialisée là-dedans. Et donc, il y a un exemple qui est fait à partir d'un décor qui était une feuille simple, pliée, avec des pliures. Et le tirage est quand même pas mal.
Ah ben, j'étais bluffé d'ailleurs.
Pourquoi ?
Ben, parce qu'il n'y avait plus de traces de pliures, mais le dessin, il était présent et dans le même. Comme si je l'avais fait le jour même, quoi. Il était tout neuf. si on peut dire. Donc, c'est satisfaisant, quoi.
Et donc, c'est possible de vendre une reprographie et de ne pas vendre les originaux.
Non.
Pour vous, vendre les originaux, c'est impossible ?
Pour le moment, ouais. Oui. Ouais, j'ai peut-être une idée derrière la tête, je crois.
Dans une prochaine exposition, dans 10 ans.
Non, mais je crois que c'est tout à fait personnel, je crois.
Bon, vous n'êtes pas le seul, hein.
Ouais, non.
Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, donc, il y a le vernissage de cette exposition qui se fait ce soir à partir de 18h. Donc, c'est au local de l'autre côté, à Ganges. Et donc, vous serez là, il y aura une discussion... vers aux alentours de 19h, la possibilité donc de découvrir tous ces gravures qui ont été tirées, les tirages, un tirage d'art qui permettra de voir ce qui est possible. Il y aura une souscription pour un certain nombre d'images qui vous tiennent particulièrement à cœur. Donc il y a aussi bien en fait des images de décors, de dessins animés, mais il y a aussi des dessins qui ont été réalisés, comme par exemple ce dessin sur Sandars.
Ah oui, ça c'est des dessins, oui, à part, oui.
Et puis il y a eu aussi des dessins, alors ça peut être une façon d'évoquer cette autre facette du dessin, ce qu'on appelle le dessin sur le motif, où vous êtes dans les environs de Saint-Laurent et puis vous dessinez un paysage.
Tout à fait.
Alors, c'est quel plaisir, ça ?
Le plaisir, c'est déjà d'être dans la nature, d'une part, on entend les oiseaux chanter, etc. Puis il y a la lumière, il y a tout ça, et la forme du paysage, et ça compte beaucoup. Et tout d'un coup, là, vous avez, je dirais pas, l'inspiration. Vous avez quelque chose qui se passe entre le paysage et vous-même. Il y a une réciprocité, quoi, quelque part. Et c'est super plaisant, quoi. Vous êtes, là j'ai l'impression, vous n'êtes plus dans votre personnalité, vous êtes là, en accord avec le paysage, voilà, c'est ça, plutôt.
Et à plusieurs moments, vous avez réagi sur des mots qui sont un peu utilisés facilement lorsqu'on parle de dessin, d'art, l'inspiration.
C'est difficile. Moi, je trouve que c'est difficile à définir ce truc-là. C'est une question. Je sais pas. C'est comme quand vous êtes en face, face l'un de l'autre. Il y a quelque chose d'humain qui passe entre nous, quoi. Enfin, vous voyez. Et je pense qu'avec le paysage, enfin, je pense pas. Le paysage, c'est la même chose. Enfin, c'est une réalité même. Je veux dire, on est dedans, dans le paysage, quelle qu'il soit. Hein, je veux dire, en particulier à la campagne, à la ville, je sais pas trop comment ça se passe, mais.
Alors, Quel dessinateur êtes-vous, Richard Mitoire? Comment ça se passe quand vous dessinez? Est-ce que vous êtes vraiment dans un geste précis? Est-ce qu'il y a de l'énergie pour que sente dans le trait, comme par exemple dans les recherches de décors?
Ben oui, bien sûr qu'il y a une énergie, mais vous êtes tellement, enfin, vous avez une image de la chose, du paysage ou bien du décor que vous voulez faire, que vous lancez, quoi. Et le crayon, il part de n'importe quelle manière pour réaliser, en fait, au plus proche, le paysage, même si vous débordez un peu, quoi. Non ?
Oui.
Oui.
Est-ce que...
C'est difficile à définir tout ça, je crois.
Ben oui, mais c'est pour ça qu'il y a une émission toutes les semaines, parce que je suis loin d'avoir fini.
Ah oui ?
Okay, pour chaque dessinateur, c'est différent, donc c'est bon. Hein.
Ah d'accord, ok. Alors, on a de la marge.
On a de la marge. Oui. Le dessin animé, c'est vrai qu'on a... Il n'y a pas souvent des réalisateurs ou des dessinateurs associés directement au dessin animé. Une dernière question sur votre relation à la 3D, à l'informatique, à l'ordinateur. Est-ce que vous avez échappé à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire ou qui vous interpelle?
Non, pas plus que ça, en fait.
Il y a vraiment cette envie du geste, du
crayon. Ah bah non, c'est pas la même. Même quand vous dessinez sur une, je sais pas quoi, comment ça s'appelle, le rendu, c'est quoi? C'est mécanique, quoi. Je veux dire, c'est des nombres, si on peut dire. 1, 0, 0, 1.
C'est ça.
Donc, pour moi, ça n'a pas d'intérêt, je veux dire. L'intérêt, c'est vous avez un crayon, ou peu importe, un stylo, n'importe quoi, vous avez une feuille de papier, et puis, paf, ça part, quoi. Ça part dans tous les sens, en fait. Et puis, vous ne vous posez pas la question, quoi. Surtout si vous êtes devant un paysage ou devant un portrait ou autre chose comme ça. Il y a une relation qui s'établit, quoi. Puis il y a du vivant tout le temps, quoi. Pour moi, c'est ça. Enfin, voilà. Mais ça, c'est... J'allais dire une pointe de bonheur. Non, c'est un bonheur, effectivement.
Merci beaucoup, Richard Mitoire. Donc, je rappelle, l'exposition a lieu à partir de ce soir, le vernissage dès 18h, donc local de l'autre côté à Ganges. L'exposition aura lieu jusqu'au 29 juin et ça permettra de bien pouvoir profiter de cet univers du dessin, de ce parcours dessiné d'un graveur. Merci Marin pour la technique et on se retrouve la semaine prochaine avec une autrice, ça sera Aloïs Mendoza. Bonne semaine à tous sur les ondes de Radio Escapade.
Écriture dessinée.